19h-20h. Les informés.
Ils ont voté et c'est irrévocable.
Ok.
Avec Adil Farkan.
Si tu t'occupes pas de politique, et ben la politique s'occupera de toi.
Sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue, vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ensemble dans les informés, vous le savez, à commenter, analyser, décrypter l'actualité. Les informés, on va démarrer cette toute nouvelle semaine et au sommaire, au menu de cette émission, ce que je vous propose, durant une heure, jusqu'à 20h, ensemble. Eh bien d'abord, nous allons accueillir une interview inédite depuis l'Algérie, avec une personne que vous connaissez, une personnalité en tout cas publique. Il s'appelle Rachid Nekaz, il a écrit un ouvrage qui s'intitule « Mon combat contre la dictature algérienne ». Il en prend des coups, Rachid. Eh bien, il a décidé de se livrer ce soir dans Les Informés, de nous livrer à la fois son point de vue, son expérience, son parcours, mais surtout, chers amis auditeurs, sa vision, la vision de demain. Parce qu'il n'exclut pas Rachid Nekaz qui peut lui arriver à tout moment un petit pépin. Vous savez ce que je veux dire par le petit pépin. Vous l'aurez compris. Vous le traduisez, vous l'interprétez comme vous voulez. Mais on va en parler avec lui dans une poignée de minutes. Ensuite, nos débatteurs influenceurs. Eh oui, ils sont trois ce soir. On a retenu, en tout cas, ce qui a retenu notre attention. Ça chauffe du côté du prix des carburants. Parce que la France, elle s'apprête quand même à faire des opérations escargots. Mais attention aussi. Est-ce que c'est pas un peu le retour, vous savez, de ces grandes manifestations où on va bloquer les autoroutes, on va bloquer le périph? Oui, ne me regarde pas comme ça, Giovanni, c'est ça la France. Mais oui, il faut aller travailler, cela dit. Mais hop, hop, clochette! J'ai fait une gaffe. Oh là 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 là. C'est ça, ouais, c'est... Quand je me permets des petits éditos comme ça, Giovanni va lancer la clochette. Deuxième sujet, celui qui a retenu aussi notre attention, vous le savez, c'est le Covid. Ah là là, le Covid. Va-t-on s'en débarrasser un jour? Eh bien non! Parce qu'il y a une nouvelle vague, selon certains spécialistes, eh bien vous allez vous prendre en pleine gueule, pardonnez-moi la trivialité du terme, voilà, merci, une nouvelle vague en printemps, grand point d'interrogation. Eh bien on répondra à cette question tout à l'heure. Personnellement, bon bref, on n'a pas envie de plomber le début de semaine, attention les amis, hein. Valérie Pécresse, elle attend. Mais elle attend quoi au juste? Pardon. Elle dit que Nicolas Sarkozy, peut-être qu'il va venir la soutenir. Mais lui, il dit quoi? Elle n'écoute rien à Valérie Pécresse. Donc pourquoi j'irai la soutenir? Non mais si je sais, clochette. Non, je sais que je vais me prendre des bombes atomiques en pleine gueule. Mais c'est pas grave. Parce que Valérie Pécresse, elle a déclaré, vous savez, durant cette fameuse émission... Hein, devant les enfants, hein, produit par Mélissa Torio, eh bien, elle dit que bon, on n'est pas à la fin, je trace ma route, mais j'attends toujours le soutien de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas fini. Donc Valérie Pécresse, peut-être qu'elle peut continuer à espérer. Ensuite, le 01 53 48 3000, c'est votre numéro, partout dans le monde, mais également en France. Vous venez, vous commentez l'actualité avec nous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et ça, ça fait plaisir. Voilà le programme qui vous attend. Jimmy Dalidou, syndicaliste CGT, auteur également, sera avec nous. Grande gueule, grand marxiste, dans l'âme. Il va nous développer sa thèse ce soir. Shannon Seban, une élue, conseillère municipale à Rosny-sur-Bois, En Marche, qui viendra aussi nous développer évidemment un certain nombre de choses. Mais Jean-Claude Beaujour, celui qui débat sur tous les plateaux de télévision, avocat de renom, il viendra nous confronter les points de vue. Donc, c'est les débatteurs influenceurs. Vous le savez, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et tout de suite, l'invité du jour.
Les informés, l'interview.
Interview inédite, je le rappelle, depuis l'Algérie, précisément. Et c'est avec Rachid Nekaz, personnalité publique très controversée. Monsieur Rachid Nekaz, bonsoir.
Salam alaikum, Azoul Falaoued, mon cher Adil Farkan, merci beaucoup pour votre invitation et salutations aux informés.
Eh bien, merci à vous, surtout, vous avez accepté notre invitation. Pour quelle raison? Parce que je sais que vous avez écrit un ouvrage, Mon combat contre la dictature algérienne, mais surtout, vous êtes en résidence surveillée. Vous n'avez pas peur, Rachid Nekaz?
Vous savez, dans l'islam, et je suis musulman, on a peur que d'une seule entité, c'est-à-dire Allah, Dieu. Je n'ai peur ni des dictatures, ni des démocraties, ni de la justice, ni des forces de police. Vous savez, ça fait 5 ans maintenant que je suis en résidence surveillée illégale dans mon village. Il y a 15 policiers qui sont stationnés H24. Je ne sais pas si vous avez lu le livre. J'ai connu des choses absolument horribles en Algérie, mais j'ai fait une promesse à mon défunt père en 2011 que j'allais faire le maximum pour essayer d'insuffler une culture de la démocratie.
Votre père, Algérie, qui occupe une place dans votre livre, hein.
Oui, très importante.
Très importante. Votre mère aussi, d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
D'abord, je voulais vous féliciter pour votre ouvrage. Je voulais vous féliciter parce que je l'ai lu attentivement. Vous racontez, vous revenez évidemment de votre banlieue, vous nous racontez... On va en parler de toute façon, c'est chez Max Milo, aux éditions Max Milo. Pourquoi mon combat contre la dictature algérienne? Et pourquoi pas l'Algérie tout court? Mais pour quelle raison vous avez décidé de consacrer ce livre? Parce que vous en avez écrit des ouvrages, hein, vous en avez écrit pas mal, 4-5. Pourquoi vous avez décidé de consacrer mon combat contre la dictature algérienne?
C'est d'abord un engagement que j'ai fait donc auprès de mon défunt père en 2012. Ensuite, parce que depuis 1962, nous sommes sous un régime militaire dictatorial.
Oui.
Et enfin, parce qu'il y a 45 millions d'Algériens qui rêvent de liberté, qui rêvent de développement, qui rêvent de vivre librement dans notre propre pays, et ça ne marche pas. Donc il faut se battre.
Eh bien justement. Justement, parlons-en, Rachid Nekaz. Merci en tout cas d'être avec nous. Parlons-en. Vous êtes le principal opposant au régime, encore aujourd'hui. Vous le dites vous-même, vous êtes en surveillance, résidence surveillée, en permanence, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes l'un des initiateurs du Hirak, hein, faut le dire, parce que vous étiez aussi sur notre antenne. Où en est-on aujourd'hui du Hirak, aujourd'hui, cette révolution comment dirais-je, quelles leçons en tirez-vous, mais surtout, où en est-on aujourd'hui du Hirak?
Alors, je suis l'initiateur du Hirak électoral, c'est-à-dire que j'ai demandé à des millions d'Algériens de sortir, pas dans la rue, mais dans les mairies, pour m'apporter leur soutien en vue de ma candidature d'avril 2019. Et malheureusement, ce Hirak a été complètement instrumentalisé par le pouvoir qui a annulé les élections présidentielles d'avril 2019 afin de m'empêcher de gagner cette élection. Donc, depuis 3 ans, le Hirak... malheureusement, s'est perdu dans les rues des 48 wilayas algériennes et aujourd'hui, il est mort. En tout cas, le Hirak qui marche inutilement dans la rue est mort. Aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux de la démocratie, c'est-à-dire préparer les élections de 2024 en faisant en sorte qu'il y ait la pluralité des élections, la transparence des élections et surtout l'honnêteté de ces élections. Donc c'est à cela que je vais m'atteler pour que d'ici 2024, n'importe qui aura le droit de se présenter.
Oui, parce que votre combat, vous dites notamment, pendant 8 ans, vous avez réalisé 1300 vidéos sur les réseaux sociaux pour une raison toute simple, c'est que vous voulez libérer la parole, redonner confiance à la population pour sortir de la peur et surtout, pour dire quoi comme principal message, Rachid Nekaz?
Vous savez qu'en 2013, quand je me suis engagé concrètement dans la scène politique algérienne, tout le monde avait peur. Personne n'osait parler. Et grâce aux vidéos live, petit à petit, les Algériens ont appris à être libres. Donc j'ai fait un travail de pédagogie libertaire, j'aimerais dire. Mon principal message est le suivant, c'est que nous pouvons aujourd'hui passer de la dictature à la démocratie à condition d'agir pacifiquement, légalement, démocratiquement et de façon civilisée.
Ça prendra du temps selon vous, Rachid Nekaz?
Selon moi, ça va prendre au moins une vingtaine d'années. C'est la raison pour laquelle mon ambition n'est pas d'être forcément président de la République. Alors, vous savez, à l'échelle d'une histoire d'un pays, c'est pas grand-chose, 20 ans. Donc vous savez, mon ambition n'est pas forcément d'être président de la République, surtout que maintenant mon casier judiciaire est totalement noir. Mais je veux contribuer avec toutes mes forces pour soutenir un ou une candidate en 2024 pour enfin mettre en place un État de droit démocratique.
Dans votre livre, vous commencez votre ouvrage, justement, dans le chapitre 1, vous le dites d'ailleurs. Est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose pour l'Algérie? Je vous renvoie la question. Qu'est-ce que vous voulez faire, justement, de l'Algérie dans les années à venir? Là, à court, moyen terme, Rachid Nekaz.
Vous voyez, je suis le seul opposant politique algérien qui a le courage de publier un livre contre la dictature algérienne, alors qu'il y a 15 policiers autour de moi dans le village. Deux, j'ai 4 procédures judiciaires, dont l'une risque de m'enfermer toute ma vie dans les prisons algériennes en vertu de l'article 77 de la Constitution. Donc les Algériens le savent, et malgré cela, j'affronte droit dans les yeux la dictature algérienne et je lui dis, je n'ai pas peur de toi. Et donc mon message, c'est de dire aux Algériens, n'ayez pas peur, mais soyez pacifiques, soyez légaux et surtout développez une intelligence collective. Voilà ce qui manque en Algérie, une intelligence collective.
Et malgré... Et Rachid Nekaz, rappelons à nos auditeurs qui nous écoutent partout que vous avez évidemment failli perdre la vie à plusieurs reprises.
Oui, d'abord j'ai passé 443 jours en prison, donc du 4 décembre 2019 au 19 février 2021. Et après cela, il y a eu des choses horribles qui s'est passé dans mon pays. Nous avons porté plainte et nous attendons la réponse de la justice algérienne. Et d'ailleurs, c'est parce que nous avons porté plainte suite à cette horreur que je décris dans le livre que j'ai un petit peu de liberté dans mon village malgré 15 policiers autour de moi. Pourquoi ?
Oui.
Parce que la dictature algérienne a peur que cela se sache et que ce soit un scandale d'État. Donc je préfère faire confiance à la justice dans mon pays afin que les véritables commanditaires de cette chose horrible soient arrêtés.
Il y a quelques chapitres qui ont retenu mon attention, Rachid Nekaz. Chapitre, page 13. Hein. En France, j'avais appris que la seule élection que vous pouvez vous faire remarquer par l'opinion publique nationale, c'est la présidentielle. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Ensuite, à partir d'une certaine notoriété médiatique, vous pouvez essayer de créer une dynamique autour d'un parti politique qui présenterait plus tard des candidats à des élections locales. Vous parlez de ça parce que j'imagine que ça explique mieux les ambitions que vous avez aujourd'hui, Rachid Nekaz.
Je vous l'ai dit, mon ambition, c'est de participer à un changement démocratique dans mon pays.
Mais pourquoi le fait miroir avec l'élection présidentielle en France, avec la France ?
Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous l'avez bien rappelé. C'est uniquement lors d'une élection présidentielle où il y a ce qu'on appelle un filtre, un darwinisme politique. C'est là où une femme ou un homme peut émerger avec sa personnalité, avec son programme, avec ses idées et s'imposer auprès de l'opinion publique d'un État. Et donc j'en ai fait l'expérience en 2007 en France, puis en 2014 et en 2019 en Algérie. Et maintenant, fort de ces trois expériences, je crois qu'en 2024, ça sera la bonne date pour que l'Algérie devienne enfin une démocratie. Mais pour cela, il faudra faire voter absolument une loi d'amnistie fiscale et financière, oui. Car sans cette loi d'amnistie, jamais, jamais, jamais l'armée ne cédera le pouvoir et ses privilèges.
Vous, Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président, occupe une place très importante dans votre livre. Hein. J'ai vu, j'ai parcouru, j'ai... pour quelle raison d'ailleurs y avoir consacré autant de place ?
Abdelaziz Bouteflika, en 99, représentait un espoir de liberté, de démocratie, de dignité en Algérie après la décennie noire. Mais malheureusement, 20 années de système Bouteflika ont réduit à néant ce désir de liberté, cet espoir de développement et de dignité. Donc il est le principal responsable du chaos liberticide dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 331 détenus politiques dans les geôles algériennes. C'est inacceptable, il faut impérativement les faire libérer et amorcer un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut des médiateurs. Et en cela, je fais confiance à des femmes et à des hommes de loi pour être les véritables médiateurs entre le peuple d'un côté et le pouvoir militaire de l'autre. Car sans ces médiateurs, c'est-à-dire des véritables juristes, comme cela a été le cas en Afrique du Sud avec Mandela ou De Klerk, ou en Inde avec Gandhi et Jinnah qui étaient des avocats, ou en Amérique latine avec Raúl Alfonsín, ou en Espagne avec Felipe González, sans des hommes de loi, on ne réussira jamais une transition démocratique.
Page 148, mon cher Rachid Nekaz, toujours dans votre livre, vous parlez de la marche maghrébine. Vous dites en octobre 2017, j'avais annoncé sur ma page Facebook que j'allais entamer du 8 au 17 février 2018, une marche de 300 km, justement pour faire la promotion du Grand Maghreb. Vous y croyez encore, cette union du Grand Maghreb, quand on voit évidemment la relation diplomatique interrompue entre l'Algérie et le Maroc ?
J'y crois dur comme fer. De la même façon que je crois la démocratie en Algérie, je crois l'union nord-africaine du Grand Maghreb. Vous savez, j'ai marché 3124 km à travers les déserts, les montagnes et les plaines algériennes. Vous savez pourquoi je suis arrêté en Tunisie?
Oui.
C'est parce que le gouvernement de Bouteflika avait demandé au gouvernement tunisien de me faire arrêter. Donc j'étais expulsé d'un pays du Maghreb. Mais la fois d'après, lorsqu'il y a eu des élections présidentielles, donc en 2019, j'ai été accueilli de façon tout à fait fraternelle par la Tunisie. Et quel est le message? Aujourd'hui, nous voyons la brouille diplomatique, économique entre l'Algérie et le Maroc. La raison est très simple,
oui.
C'est le problème du Sahara occidental. J'ai fait une proposition en 2013 que j'ai développée et qui est la mise en place d'un condominium algéro-marocain pendant 10 ans.
Vous en parlez dans votre ouvrage, hein, vous en parlez dans votre livre.
Absolument. Et mon idée, c'est quoi? C'est que pendant ces 10 années, on développe la région du Sahara sur le plan économique, social, environnemental, qu'on apprenne à exploiter les richesses de ces deux pays, l'Algérie, le Maroc notamment, le plus grand gisement de fer en Afrique qui se trouve à 140 km au sud-ouest de Tindouf, qui s'appelle Ras Jbilet. On peut très bien acheminer ce fer dans un port marocain, le Youn ou à Dakhla, et ainsi on va développer toute cette région. Et au bout de 10 ans, on ferait un référendum et on poserait tout simplement la question aux populations qui habiteraient dans cette région-là. Est-ce que vous voulez rester dans le cadre d'une région attachée au Maroc? Est-ce que vous voulez l'indépendance? Ou alors est-ce que vous voulez continuer à être un condominium?
Régine Nekaz, je suis contraint de lancer la pub. On se retrouve tout de suite après, juste pour deux petites questions, parce que j'en ai encore deux petites. Et restez avec nous, surtout Régine Nekaz, on se retrouve dans une poignée de minutes. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h23, notre invité spécial inédit, c'est le mot combat contre la dictature algérienne, et c'est Régine Nekaz. Re-bonjour Régine Nekaz, vous êtes avec nous en direct, de façon inédite, depuis l'Algérie. On ne citera pas la ville, puisque vous êtes en résidence surveillée. Dites-moi mon cher Régine Nekaz, encore quelques questions, vous êtes toujours avec moi?
Je suis toujours avec vous.
Pourquoi vous parlez dans page 2016, après avoir dressé l'Algérie ci, l'Algérie cela, etc. Vous dites que Alger, finalement, la révolution, elle est avortée.
Elle a échoué, la révolution algérienne, car les autoproclamés du Chirac ont refusé qu'il y ait des représentants capables de négocier avec le pouvoir une sortie de crise. Vous savez, la révolution, ça ne peut pas être confié à des amateurs, ça doit être confié à des personnes qui ont une culture historique, une culture philosophique, une culture politique, une culture juridique. C'est avec des personnalités qualifiées qu'on peut faire aboutir une révolution et mettre en place un état de droit. Et surtout, la radicalité, c'est le poison des révolutions. Il faut des personnalités raisonnables. Et c'est la raison pour laquelle, pour 2024, il est important qu'avec la diaspora qui se trouve en France, en Europe, en Amérique du Nord, nous puissions enfin mettre en place une feuille de route qui permettra l'organisation d'élections libres et transparentes, et ainsi rassurer les militaires, car les militaires ont besoin d'être rassurés, sinon ils risquent de faire un coup d'État comme en Birmanie le 1er février 2021. Donc la diaspora a un rôle très important à jouer.
Très important à jouer. Dites-moi, dans votre livre, vous parlez de votre maman. Et de votre maman, elle s'inquiète pour vous. Elle dit, prenez soin de vous, prenez votre soin de votre état de santé, prenez soin de votre avenir. Pourquoi vous ne l'écoutez pas, Régine Nekaz?
Eh bien, ma pauvre maman est décédée en 2017, Allah yarhamha, et après cela, notamment quand j'ai été incarcéré, ben j'ai attrapé un début de cancer de prostate. Donc oui, j'essaie de l'écouter. Mais vous savez, l'Algérie avant tout, comme on dit. Vous savez, avec mon ami Hassan Belimbarek, qui est marocain, et je crois que vous le connaissez,
oui.
On essaie justement de participer, de contribuer à un espace démocratique dans les pays du Maghreb, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Mauritanie. Quand on voit qu'il y a des journalistes qui sont emprisonnés aujourd'hui à Alger et à Rabat, moi j'ai mal au cœur. Donc ma maman...
Ça va mieux votre état de santé?
Non, ça va très mal parce que les autorités ne me laissent même pas aller me soigner pour mon début de cancer de la prostate à Alger. Donc les autorités algériennes...
C'est terrible.
Ah, c'est terrible. Vous savez, l'Algérie est un pays très spécial. C'est à la fois une terre d'espérance, mais en même temps, c'est une terre de malédiction. Mais la faute à qui? La faute à l'absence de médiateurs.
Qu'allez-vous faire? Vous allez demander à la France d'intervenir pour vous, évidemment, pour vos soins.
Je ne demanderai jamais rien à la France, parce que si vous avez bien lu le livre, vous avez vu...
Ah bah ça, j'ai compris.
La France a commis quelque chose d'extrêmement grave. La France m'a jugé, écoutez-moi bien, la France m'a jugé par défaut alors que j'étais emprisonné, que j'étais en résidence surveillée et interdit de quitter le territoire. La France m'a condamné à 6 millions et demi d'euros parce que j'avais juste mis l'adresse d'un corrompu sur la page Facebook qui s'appelle Oulkadour et aujourd'hui il est en prison. Donc je ne demanderai jamais rien à la France et en plus j'ai renoncé à ma nationalité française le 14 juillet 2013. Donc il y a un pays qui fait énormément de...
Vous pensez à un autre pays pour vos, évidemment, votre état de santé?
Alors je ne vous cache pas que le pays auquel je pense me faire soigner, tout simplement l'Algérie, mais à condition qu'il me laisse aller à Alger, parce que je n'ai même pas le droit d'aller dans un hôpital à Alger.
Bah oui.
C'est ça le drame. C'est ça le drame.
Bon.
Vous savez, je pense aussi au drame des Algériens qui veulent venir.
Bon.
Donc ils sont en France et qu'ils veulent venir en Algérie. Vous rendez compte, il faut qu'ils payent 800
oui.
euros.
Non.
800 euros ils doivent payer pour venir à Alger, alors que ça coûte à peine 100 euros normalement pour aller au Maroc ou pour aller en Tunisie. Donc des compagnies comme Air Algérie Air France font un racket inacceptable pour la diaspora algérienne qui vit en France et en Europe.
Dernière question, Rachid Nekaz. Vous parlez de votre réflexion carcérale et en semi-liberté, mon passage en prison et mon régime en semi-liberté depuis un an, m'ont fait réfléchir sur les raisons d'être de mon combat et de le sens de mon engagement. Un peu plus loin, vous dites aussi également, dans la conclusion, cette odyssée algérienne n'a pas été de tout repos. Alors j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous voulez, vous, au juste? J'ai bien compris, on a compris le sens, évidemment, de vos réponses, de vos éléments. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon au passage carcéral, aujourd'hui semi-liberté, et la conclusion de votre ouvrage, où vous dites finalement, n'a pas été de tout repos. Le mot de la fin est pour vous.
Merci beaucoup, cher Adil Farkad. Quand je me suis retrouvé en prison, j'ai été totalement abandonné par le peuple algérien. Surtout quand je compare avec le peuple sénégalais, qui est sorti par milliers devant la prison au Sénégal pour faire libérer leur principal opposant qui est Ousmane Sonko. Il est resté 5 jours en prison, je suis resté 443 jours. Mais c'est là où je repense à Lénine et Trotsky. Lénine et Trotsky ont dit que si on n'a pas des techniciens de la révolution, ou plutôt des professionnels de la politique, c'est-à-dire ceux qui ont une formation philosophique, une formation juridique, une formation historique et politique, on ne peut pas faire aboutir une révolution citoyenne et démocratique. C'est pourquoi, pour 2024, il est très important que ce soit ou un homme ou une femme de loi qui puisse mettre en œuvre cette transition démocratique en Algérie en gagnant les prochaines élections présidentielles que je soutiendrai de toutes mes forces. Et c'est ce que je raconte dans mon livre « Mon combat contre la dictature algérienne ».
Eh bien, allez vous procurer le livre de Rachid Nekaz, « Mon combat contre la dictature algérienne » aux éditions Max Milo. Mille merci, mon cher Rachid Nekaz, mais surtout, prenez soin de vous et un bon rétablissement.
C'est moi qui vous remercie, mon cher Adil Farkad, et je remercie votre édition Les Informés, et merci beaucoup à Beur FM pour cette invitation que je n'oublierai pas.
Merci à vous et prenez soin de vous. 19h29 tout de suite. Allez, Shannon Seban, bonjour.
Bonsoir Adil.
Comment ça va? Bien?
Bien, bien, et vous?
Vous êtes en forme, hein?
Toujours.
À vos côtés, c'est Maître Beaujour. Comment ça va?
Bonsoir Adil.
Vous avez inondé les médias, vous, j'ai vu ces derniers jours, hein?
Ah bon?
Oui, j'ai vu sur CNews. Vous êtes chroniqueur chez CNews ou...
Écoutez, j'accepte...
Oui.
Alors, vous savez, tout d'abord, j'accepte toutes les invitations qui me sont adressées, sans distinction. Vous avez vu que je suis allé, quand je suis invité chez LCI, à BFM...
J'ai vu.
Y compris sur...
Notre avocat est très médiatisé.
France Télévisions, donc je vais partout. Ensuite, juste pour une remarque.
Jimmy Dalidou.
Une remarque, j'entends dire, ils sont à droite. Alors, ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas que.
C'est ce qu'il dit, ouais.
Oui, non, mais je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui dénoncent, par exemple, la polarisation. On en a parlé souvent, la polarisation de la vie américaine en disant c'est ce qui nous guette. Mais moi, je vais partout, personne ne m'a jamais entendu, ne m'a jamais obligé.
C'est un choix.
Contraint.
C'est un choix.
Attendez, contraint.
C'est un choix.
Non, mais attendez, oui, que j'assume parce que justement.
Je confirme, vous l'avez toujours dit.
Que je ne suis jamais contraint de me prononcer dans un sens, personne ne m'a demandé d'aller dans.
Pourquoi, si on vous invite, vous refusez? C'est news?
Bah, si on m'invite, non, j'irai, mais si.
Ah, bah voilà, clochette, voilà! Voilà, voilà,
s'il y a une demande d'autocensure, on n'irait pas.
Mais attendez, ouais. Vous imaginez que...
Je sais, chez Beurre FM, il n'y a pas de censure, j'ai ce que je veux.
Demandez à Adil, demandez... Moi, j'ai fait à peu près tous les grands journalistes français, je ne pense pas qu'une seule fois, on m'ait demandé d'aller dans un sens ou dans un autre.
Mm-hmm. Exactement. Jimmy Dalidou, bonjour.
Ça puisse arriver.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va bien?
Ça va, tranquille.
Super. On va, vous inquiétez pas, on va rattraper le temps perdu. Mais comme chaque lundi, c'est aussi l'édito de Maître Philippe, tiens, votre confrère, Maître Philippe-Henri Honegger.
Les informés, le Quad 9.
Waouh, Maître Honegger, bonjour. Comment ça va, mon cher maître?
Ça va très bien.
Cher Ruben et associé, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, comme chaque lundi. Eh bien, attendez que je retrouve ma petite fiche. Oh là là, je suis perdu, moi.
Je vous le dis autrement.
Non, je suis impardonnable. Si, vous m'avez parlé de la proposition d'amnistie des Gilets jaunes par Mélenchon. On vous écoute, c'est parti.
Exactement, parce que depuis quelques mois, j'essaye chaque semaine de retrouver les différentes propositions des candidats à la présidentielle en matière pénale ou en tous les cas judiciaire. Et c'est vrai que autant on avait beaucoup, beaucoup de propositions à la droite de la droite, tout aussi farfelues les unes que les autres, mais assez peu de propositions qui venaient finalement de la gauche, dont semble-t-il la question judiciaire, la question pénale, la question de la sécurité semble pas particulièrement les passionner. Et donc la proposition d'aujourd'hui de M. Mélenchon, j'ai décidé d'en parler parce qu'il n'en a pas énormément, et qui est celle essentiellement d'amnistier, c'est ce qu'il a proposé, les Gilets jaunes, mais également d'indemniser ceux qui ont été victimes des violences policières, vous savez, ceux qui se sont fait éborgner, en gros, de donner, puisque c'est ça le principe de l'amnistie, une sorte d'oubli, ou en tous les cas d'effacement de toutes les infractions qui ont pu être commises à cette occasion-là. Et c'est quelque chose qui est prévu par la loi, c'est l'article, c'est pas même par la Constitution, c'est l'article 34 de la Constitution qui permet la loi d'amnistie. Et c'est un principe un peu particulier, c'est qu'on prend une loi général, contrairement, vous savez, à la grâce présidentielle où c'est individuel, qui permet de dire, voilà, eh bien, écoute, j'efface toutes les condamnations qui ont été prononcées envers certaines infractions ou sur une personne donnée. Vous savez, c'est ce qui avait été utilisé jusqu'à 2007, en réalité, par tous les présidents. Chaque fois qu'ils étaient élus, il y avait une loi d'amnistie sur les infractions au code de la route. Et puis ça a été mis fin en 2007 par le président élu Sarkozy qui a dit, avec moi, pas d'amnistie, tolérance zéro, on n'est pas là pour effacer les condamnations qui ont été prononcées. Et depuis, plus d'amnistie, au point même qu'on ait un petit peu oublié l'usage ou l'utilité qui a été faite par ces lois d'amnistie qui sont très anciennes. Une des lois d'amnistie, par exemple, en 1880, c'est la loi d'amnistie pour les communards. Vous savez, ces Parisiens qui avaient pris la ville, qui avaient tout détruit, qui avaient manifesté pendant des semaines et des semaines, qui avaient été condamnés justement pour avoir manifesté. Et finalement, en 1880, on a dit non, mais on va apaiser tout ça. Et on fait une loi d'amnistie. Une autre loi d'amnistie très importante qui a été prise, c'était en mai 68, vous savez, ces Parisiens qui avaient pris la rue, qui avaient manifesté, qui avaient cassé des trucs, qui s'étaient battus avec la police et dont on avait dit à l'issue, on va apaiser les choses, on fait une loi d'amnistie. Et ce que nous propose aujourd'hui Mélenchon, finalement, c'est de revenir à ça. C'est-à-dire d'avoir un positionnement qui est politique, en opportunité politique, qui est de dire, il y a des manifestations, il y a des infractions qui ont été commises et à un moment donné, je me place d'un côté ou de l'autre, et ces personnes-là, je veux les amnistier. Et d'ailleurs, directement, tout un ensemble des autres candidats ont dit non, moi je suis pas du tout d'accord, moi je veux pas du tout amnister, c'est pas du tout mon positionnement, je reste sur la tolérance zéro. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette proposition nouvelle de venir réintroduire une loi d'amnistie, en particulier sur les Gilets jaunes, on voit très bien comment est-ce que on a un positionnement politique très important entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, et puis surtout qu'on a cette volonté d'apaisement dans une société qui, depuis 2 ans, il faut bien le dire, est quand même très très mal menée, depuis 4 ans si on inclut les Gilets jaunes. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce package, j'allais dire, des Gilets jaunes et des victimes de violences policières, M. Mélenchon, il inclut également le fait de réintégrer les soignants qui ont été chassés de l'hôpital à cause du Covid. Vous avez compris qu'en réalité, c'est un positionnement très intéressant à travers la loi, qui est celui de dire, ça fait 5 ans que ça se passe mal, ça fait 5 ans qu'il y a des violences, ça fait 5 ans qu'il y a des troubles dans la société, et je vais venir par l'amnistie apporter un petit peu d'apaisement, et je trouve que parfois, ça peut faire du bien d'apporter un peu d'apaisement.
Vous avez droit à une clochette, hein, mon cher maître. Hein.
C'est fini.
On saura un jour pour qui vous allez voter là pour ces élections présidentielles ou pas du tout.
Franchement, j'en ai aucune idée.
Aucune idée. Maître Philippe Aurélien Néguère, qu'on retrouve chaque lundi. À lundi prochain, sans faute, Maître Néguère.
Je serai là.
Eh bien, avec grand plaisir, vous le savez, c'est parti, 19h36. On peut. Qu'est-ce qu'on fait? On lance la pub? Pub. Nos débatteurs, ils vont finir par se. Pub. C'est une radio privée, hein. Bah, pub alors. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h40, c'est parti, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
La hausse des prix du carburant inquiète tout le monde. On en parle tout de suite. Allez, Jimmy Dalidou, je vous donne la parole. Ensuite, c'est Shannon Seban et Maître Beaujour.
Bon, allez, pour lancer le débat,
lançons.
Je dirais que 2 euros, on est à 2 euros à peu près, 2 euros un peu plus.
Un peu plus.
C'est à peu près, si on part du principe que le. Enfin, une analyse de la réalité objective qui est que le SMIC est à 1269 euros, à peu près net.
Ah oui, il a fait un calcul.
De non, ouais, bah j'ai noté, ouais, parce que quand je vais travailler après, j'ai trop de choses en tête. Bref, 2%, c'est 10% du SMIC. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, les automobilistes français actuellement, ils font une moyenne, hein, on coupe la poire en deux, c'est 130 km par an. C'est-à-dire 250 km par semaine environ. Si on fait le calcul, c'est simple, 50 euros par semaine, ça vous fait, allez, 5, 10, 15, 20, 4 semaines travaillées, ça fait vous
voilà,
êtes 200
oui,
et quelques euros.
Donc en fait, il a été loin.
Donc
hein.
En fait, en fait en gros, on prend les automobilistes.
On sent le gilet
Français,
jaune que vous avez.
On sent que les Français sont carrément, appelons un chat à chat, ils sont volés à la pompe. À essence, en fait. Ils sont carrément braqués.
Qui parle? C'est le gilet jaune ou c'est le syndicaliste?
Moi, c'est le syndicaliste révolutionnaire, l'auteur, le citoyen, etc. Ils sont carrément braqués à la pompe. Et je pense qu'effectivement, il faut agir sur trois points. Il faut agir sur l'achat.
Est-ce qu'on peut être inquiet?
La production et la répartition. Oui, il faut être très, très inquiet parce qu'en fait.
Ça va se transformer comment, cette histoire?
Ben, ce qui va se passer, c'est que, n'oublions pas une chose, c'est que l'économie est mondialisée. Ce qui va se passer, c'est que les tarifs vont augmenter. Bon, ça, les Français le savent. On a
oui, on va être à un plein d'essence hebdomadaire qui s'approche des 100 euros.
Dans le même temps, vous avez un gouvernement qui vous tient un discours farfelu, nauséabond, qui consiste à vous dire que. Alors, il présente ça presque comme une victoire en disant que oui, le SMIC il va augmenter, il va suivre l'index.
Ça va installer le débat, je le sens.
Il va augmenter de 25 euros. Ouais, non, mais d'accord, 25 euros, mais 25 euros.
Farfelu.
Vous allez acheter 2-3 sacs de patates, de pommes de terre, vous allez acheter 2-3 boîtes de conserve, mais après, est-ce que ça va vous payer? Est-ce que ça va résorber les 250 euros minimum? Parce que là, on parle d'une somme moyenne. Ensuite, vous avez les métiers.
Alors, Shannon.
Le service d'accès à la personne,
etc. Gouvernement, farfelu, tout est farfelu.
Dépense beaucoup plus.
Shannon Seban. Et ensuite, Maître Beaujour.
Non, moi, ça me fait bien rire. Je tiens à rappeler que j'entends la colère des routiers.
Enfin, lui, ça le fait pas rire, hein. Et... visiblement,
non,
Jimmy Dalidou.
Je vais vous dire pourquoi est-ce que ça me fait rire.
Clochette!
Non, j'entends la colère des routiers, j'entends la colère des chauffeurs de taxi, j'entends la colère des agriculteurs ou encore des travailleurs du BTP qui aujourd'hui réclament une aide du gouvernement contre la hausse du prix du carburant. C'est légitime. On l'entend, on l'a compris. Et le président de la République, dès lors qu'on a eu une envolée des prix du carburant, il a agi massivement. Il y a eu des mesures d'urgence qui ont été prises. Est-ce qu'on doit rappeler la mise en place du bouclier tarifaire?
Avec les 15 centimes, c'est une mesure d'urgence. Alors
est-ce qu'on doit rappeler le gel du prix du gaz au tarif d'octobre 2021.
Moi, je rappellerai surtout
la mise en place.
Moi, je rappelle surtout les 60%. Sur les 2 euros, il y a 60% de taxes.
Laissez-moi juste finir. Est-ce qu'on doit rappeler par ailleurs qu'on a permis de contenir la hausse de la facture d'électricité à 4%? Aucun autre pays européen ne s'est aligné de cette façon-là. Est-ce qu'on doit rappeler qu'il y a eu une somme de près de 20 milliards d'euros qui a été déployée par le gouvernement à travers notamment une indemnité inflation, 100 euros qui sont versés
dans le même temps,
aux travailleurs.
Total 15 milliards de
Laissez-moi finir. L'indemnité inflation de 100 euros qui a été versée aux ménages les plus modestes. 100 euros versés pour tout travailleur qui touche moins.
C'est du foutage de gueule, 100 euros.
C'est du foutage de gueule.
Ouais,
et les 15 centimes qui seront déduits.
Pareil, c'est du foutage de gueule.
Alors,
parce que c'est
que
pas ça qui va améliorer le pouvoir d'achat des Français.
Qu'est-ce qu'il y a? Donc, aujourd'hui, vous vous plaignez de quoi? Dites-moi.
Moi, trois choses. Moi,
je donne la parole à Maître Beaujour.
Je propose d'agir sur l'achat.
Non, parce que sinon, je serais juste venu pour rien.
Non,
vas-y.
Alors, Maître Beaujour, allez-y. Foutage de gueule ou pas?
Non, si vous voulez, le sujet est bien plus ancien, effectivement, sur l'énergie. Sur l'énergie, ce sont des taxes maximales. Et moi, je comprends parfaitement. L'essence a augmenté de 43 centimes en un an. Et on peut comprendre absolument, parce que nous sommes citadins, mais je pense à une grande partie de nos concitoyens.
Mais vous dites foutage de gueule.
Qui vivent la ruralité, et effectivement, un euro, c'est un euro, et ça, je peux comprendre. Maintenant, moi, je pense que le problème est plus profond que ça, parce que l'État ne vole pas. Je peux pas laisser dire que l'État vole. En revanche, là où est-ce que je peux m'exprimer ou alors ça n'a pas d'intérêt ou je vous laisse parler, je m'en vais. Ce que je dis, c'est qu'il est important pour nos concitoyens, je ne peux pas laisser dire, quels que soient les désaccords que l'on peut avoir, l'État ne vole pas. L'État, c'est en réalité un gouvernement qui récolte de l'argent pour pouvoir le distribuer. Là, effectivement, où j'entends, et ça fait des années qu'on lutte pour ça, c'est de dire, ben, il y a un maximum de taxes sur l'énergie.
Ben, par exemple, vous l'entendez le message de Jimmy Dalidou ?
Oui, non, mais
c'est du foutage de gueule. Vous répondez quoi, vous, maître Beaujour ?
Mais du foutage de gueule de quoi ? Je comprends pas.
Ah, je vais t'expliquer. Il y a une taxe qui s'appelle ce qui est lié au régime, un régime d'assises. Ce qui fait que qui a résulté de ce régime une taxe qui s'appelle le TICPE plus TVA. Deux cumulés, les deux combinés te donnent une taxe qui s'élève à plus de 60 euros au pistolet.
Et
ça veut dire que attendez, il faut être complet, parce qu'une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Une fois le TICPE, la TVA a été calculée de par des éléments objectifs à l'époque qui étaient il a été défini à l'époque une période de paix, dans une période où les différents éléments objectifs te permettaient de calculer cette taxe.
Alors,
là, on est dans une période de guerre. Donc, le TICPE et cette taxe qui combinée volent les Français à plus de 60%.
Mais aujourd'hui,
n'a plus lieu.
Shannon et Maître Beaujour. S'il vous plaît.
Non, mais il faut juste
écoutons-nous parler. Shannon et Maître Beaujour.
À nos auditrices et à nos auditeurs, ce que vous proposez aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est de baisser la TVA sur le prix de l'énergie de 20% à 5,5%, on va être honnête. D'accord, ok. Aujourd'hui, le problème, il faut le rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs, le problème, c'est de pouvoir financer la transition énergétique et faire en sorte que notre pays soit moins dépendant d'un point de vue énergétique d'autres pays tels que la Russie. C'est pourquoi le gouvernement croit en une fiscalité sur l'énergie qui permettrait aujourd'hui de financer la transition écologique.
C'est pour ça que
si aujourd'hui vous baissez cette fiscalité, comment est-ce qu'on finance la transition écologique ? Aujourd'hui, le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est engagé à flécher les recettes fiscales sur l'énergie vers la transition écologique, qui est une nécessité pour être moins dépendant d'économies.
Sauf que lui, il n'entend pas
Russie et à sortir des énergies fossiles.
Dans l'ordre, s'il vous plaît, Maître Beaujour. Maître Beaujour.
Je dis, quel que soit l'argumentaire, c'est vrai que nous avons un taux d'imposition sur notre énergie à l'essence qui est explosif. Mais pourquoi ? Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le mot volé. C'est qu'en réalité, nous voulons financer des politiques.
Ils forcent les Français à donner ce nom et brisent la résistance.
Mais voyez sur le long terme. Ne soyez pas cyniques.
Si c'est la technique de la CGT d'empêcher l'autre de parler, je vais vous dire, on s'arrête tout de suite. Moi, je m'en vais. Et puis, pas. Non, parce que sinon.
Maître Beaujour, allez-y. Maître Beaujour, allez-y.
Ça devient exaspérant. En réalité, pourquoi est-ce que nous sommes ? Nous sommes un pays qui se meurt sous les taxes et sous l'impôt considérable. Pourquoi ? Parce que nous avons des politiques publiques que nous finançons par centaines de millions d'euros et il faut bien trouver de l'argent. C'est-à-dire que c'est pas qu'on nous vole parce qu'il y aurait...
Vous avez le sentiment des Français alors d'être volés ?
Parce que...
C'est un sentiment...
Je vais vous dire pourquoi est-ce que les Français ont le sentiment d'être
volés. C'est une réalité, je l'ai sous les yeux là.
Mais parce que ce qu'on ne dit pas aux Français, c'est quand on leur dit qu'on va lâcher X millions, X milliards, quand on va payer ci, quand on va payer ça, ben, il faut bien trouver de l'argent. Moi, je vais vous dire, quand on nous a dit le quoi qu'il en coûte, ben, quel que soit le mode de calcul, je me dis un jour, il va bien falloir payer tout cela. Quand on aide à droite, à gauche, et il est normal dans nos sociétés qu'on aide, moi je suis pour l'aide, il est normal qu'on soit imposé, je suis pour cet impôt, mais à un moment donné, il faut le trouver. Alors j'ai bien dit, nous avons un régime d'imposition sur l'énergie qui est trop important, parce qu'effectivement, on crée des taxes qu'on ne retire jamais au fur et à mesure. Maintenant, c'est là où je dis que je ne peux pas partager le mot voler, il n'y a pas de voleur, c'est effectivement, on a mis en place un système qui est effectivement inacceptable et qui ne favorise pas d'ailleurs l'investissement, qui ne favorise pas l'investissement. Si vous voyez le taux d'imposition que nous avons, c'est vrai que ça
ne fait pas. Dans l'ordre, Shannon Seban et ensuite Jimmy Dalio.
Je vous rejoins tout à fait. Moi, ce qui m'agace, c'est d'entendre systématiquement les oppositions vouloir se plaindre alors que des mesures ont été mises en place et qu'aucun pays en Europe, voire dans le monde, a pris de telles mesures pour contenir la hausse du prix du gaz, pour contenir la hausse du prix de l'électricité, pour servir les foyers les plus modestes qui touchent en dessous de 2000 euros grâce à un chèque énergie de 100 euros. Est-ce qu'on doit rappeler qu'on a revalorisé le barème de l'indemnité kilométrique à 10%. Est-ce qu'on doit rappeler qu'à partir du 1er avril 2022, une remise à la pompe de 15 centimes... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Qu'une remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant a été mise en place, que désormais, pour un plein de 60 litres, nos compatriotes pourront économiser 9 euros, et que les entreprises et que les chefs d'entreprise tels que Total Energy, Patrick Pouyanné, s'est engagé...
S'il vous plaît,
il faut être clair. Il faut être quand même assez lucide.
C'est pour ça que je laisse le débat.
C'est facile
pour ça. Je laisse le débat s'installer. Jimmy Dalidou.
Non mais concrètement, quand t'as un ménage, quand t'as un foyer qui touche 1200 balles et qui a un loyer à payer entre 800 et 900 euros, ils peuvent pas s'en sortir et ton discours, il l'entend pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, concrètement, tu sais ce qu'il faut faire? Moi, j'ai une proposition concrète à vous faire. Nationalisation sans indemnisation des multinationales casseuses d'emplois avec contrôle de la masse populaire.
Mais c'est utopique. Là, ce que vous me dites, c'est utopique.
Je finis. Il faut agir sur l'achat.
Nationalisation sur l'achat. Sans indemnisation.
Parce qu'il faut en finir avec le pétrodollar.
Il faut arrêter de raconter aux Français des histoires. Je vais vous dire.
C'est la réalité objective.
Il faut arrêter de raconter aux Français des histoires. Si nous voulons basculer dans quelque chose qui n'a plus aucun sens, j'entends maintenant, après 82, vous êtes un peu jeune, mais après 82, on me parle de nationalisation sans indemnisation. Et je vais vous dire les premières victimes.
Les premières victimes,
ce seront aussi tous ces Français qui ont acheté des actions chez EDF, chez Air France, chez un tel, qui contribuent à la richesse nationale. Il faut arrêter de raconter des histoires.
Richesse nationale, ensuite, qui parle de paradis fiscaux.
Mais vous parlez de qui, monsieur?
Vous
savez qu'il y a plus de 100 milliards d'euros
Monsieur, vous venez dire nationalisation. Vous parlez de 40 entreprises françaises. Nationalisation sans indemnisation.
Ce que je déplore.
Et le droit de propriété. Ce que je déplore, et
j'ose espérer que nos auditrices et nos éditeurs font preuve de lucidité. Comment est-ce qu'on peut tenir un tel discours sur une radio telle que celle-ci? C'est complètement sidérant. C'est tromper nos auditrices et nos auditeurs. Il faut remettre les choses et recadrer le débat. Aujourd'hui, il faut avoir une vision. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il faut penser sur le long terme.
Je vous rappelle qu'en 82, vous avez été au pouvoir, vous avez nationalisé et vous avez vu ce que ça a donné. Vous avez vu ce que ça a donné.
Achat, production, distribution.
Vous avez vu ce que ça a donné.
Je regrette. Le débat prenait forme.
Soyons sérieux.
Vous avez vu ce que... Je regrette, il nous restait...
Vous savez, effectivement, le régime que vous prenez, c'était celui de l'ex-URSS. Vous avez vu le résultat.
Vous avez vu le résultat
dans l'ex-URSS.
C'est la fin de l'émission, je suis désolé. On n'aura pas eu le temps de parler de deux autres sujets, mais vous reviendrez. Est-ce que vous pouvez revenir la semaine prochaine? On relance le débat sur Valérie Pécresse et sur le Covid.
Si c'est ce que vous proposez aux Français, je peux vous dire que...
Merci à Shannon Seban. Merci à Maître Beaujour. Merci à Jimmy Dalidou. Merci à la réalisation à Giovanni. C'est Bilal Nedman qui revient prendre le contrôle de 20h à 21h avec Time Sport. Nous allons parler sport. À demain avec autant de plaisir, avec d'autres débats, d'autres débatteurs, d'autres sujets, mais surtout, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.